France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque vendredi dès 18h20, le rendez-vous du Bel Air. Hervé Gardette, Arnaud Laporte.
Tiens Hervé Gardette.
Mon Dieu, mais c'est vous Arnaud Laporte?
Vous m'avez reconnu, je n'ai pas changé. Et une chose qui ne change pas, c'est qu'on donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs au Bel Air tous les vendredis. Pourquoi?
Alors, 18h20, c'est le Club des Idées.
19h, la dispute cinéma ou série.
Tous les vendredis dans Co-Bel Air.
Les experts.
Le rendez-vous du Bel Air, en direct, en public, du bar de la Maison de la Radio, tous les vendredis à 18h20 et sur franceculture.fr. France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Une gigantesque panne électrique est en cours au Venezuela depuis hier soir. Caracas et la majeure partie du pays sont dans le noir complet. Le président élu Nicolas Maduro a immédiatement dénoncé ce qu'il qualifie de sabotage de la principale centrale électrique du pays. Les lignes téléphoniques et internet sont également coupées. Tous les quartiers de la capitale sont touchés et les services comme le métro et les feux de circulation également étaient éteints juste avant la tombée de la nuit tout à l'heure. Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, condamné à 4 ans de prison hier pour malversation financière. Une condamnation dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. En plein cœur de l'affaire qui touche le géant de la téléphonie mobile Huawei, la Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger ses entreprises, selon les mots du ministre chinois des Affaires étrangères ce matin. Les États-Unis ont interdit à l'entreprise de participer au déploiement de la 5G, la cinquième génération de réseaux mobiles, Washington accusant le groupe chinois d'utiliser ses équipements pour espionner d'autres pays. La justice américaine souhaite par ailleurs juger la directrice financière de Huawei pour violation des sanctions contre l'Iran. Meng Wanzhou a été arrêtée au Canada. Elle est actuellement en liberté surveillée. Le cardinal Barbarin annonce qu'il va démissionner après sa condamnation hier par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur les victimes du père Prénat, agression pédophile dont sur des scouts qui se seraient déroulés avant 1991 et dont le cardinal Barbarin a été prévenu par une victime en 2014. Le prêtre, lui, n'a pas encore été jugé. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Nous y reviendrons largement sur France Culture dans nos prochaines éditions, en allant en Espagne à 7h, puis au Yémen et en Allemagne dans le journal de 8h.
Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Il est 6h02 sur France Culture, c'est un réveil en douceur avec Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Bonjour à celles et ceux qui se lèvent tôt avec le réveil culturel à la radio et à tous les autres qui nous écoutent quand ils veulent, en ligne ou en podcast disponible sur franceculture.fr. Aujourd'hui, je compte vous faire aimer une bande dessinée éditée chez Stankis. Il s'agit de Sissi, une femme au-delà du conte de fées par Georgia Maras, mon invitée ce matin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Pour le 8 mars, journée donc internationale des femmes, pour reprendre l'appellation officielle de l'ONU, parlons de Sissi, l'icône du 19e siècle. Oui, la Sissi des vacances d'hiver passées devant la télé. La Sissi impératrice interprétée par Romy Schneider dans les films à l'eau de rose d'Ernst Marischka tournés dans les années 50. Sissi ou la vie tumultueuse d'Elisabeth de Bavière. Dans sa bande dessinée, Georgia Maras nous propose de mieux connaître Sissi, de ses 17 ans à ses 60 ans, de son mariage à son assassinat, les moments de bonheur et les drames les plus marquants. Sissi dans tous ses états. Sissi, l'épouse, la mère, l'impératrice d'Autriche, la militante, la femme. Sissi, une femme au-delà du conte de fées, donc pour reprendre le titre de votre bande dessinée, Georgia Maras. Merci d'être venue d'Angoulême, où vous habitez.
Oui, merci à vous de m'avoir invitée.
Alors, pourquoi avoir choisi Sissi?
Parce qu'en fait, il y a une quinzaine d'années, j'avais vu des documentaires sur la vie de Sissi. Et ça m'a touché beaucoup de savoir que sa vie était vraiment totalement différente des films que j'avais connus quand j'étais petite. Et donc j'ai eu vraiment envie de raconter la vie de cette femme parce que aujourd'hui elle est encore connue comme la princesse des contes des fées, alors qu'elle était déjà pas princesse, voilà. Et princesse des contes des fées, un peu un personnage un peu tout mignon, voilà. Alors que c'était un personnage très crucial dans l'histoire du 19e siècle.
Georgia Maras, est-ce que vous vous êtes retrouvée dans les combats de Sissi?
Oui. Parce que même si je raconte l'histoire d'une femme du 19e siècle, en plus une impératrice, donc c'est peut-être la chose la plus loin de moi, de ma vie, des jeunes femmes
italiennes vivant en France.
Voilà, j'ai trouvé une personne coincée dans un endroit, dans une société qu'elle ne pouvait pas vraiment être libre, non? Et combien de fois, nous, on ne se sent pas libre par des règles de société, par rapport à la famille, par rapport à des idées qu'ils ont.
Quand vous dites nous, c'est les femmes? Nous les femmes?
Oui, nous les femmes. Moi, je pense à les femmes, mais peut-être les hommes aussi, hein. Moi, je dis femmes parce que je vis en tant d'encore d'une femme. Mais après, il y a des hommes aussi. Mais des fois, on se sent coincés dans des situations, des idées qu'on a de nous. Et puis, on n'arrive pas à s'en sortir. Par exemple, le fait que, moi, je viens d'une ville assez petite, il y a beaucoup d'expectatives du fait d'être, par exemple...
De quelle ville?
De Gênes. Moi, je viens de Gênes, Genova. C'est plus grand d'Angoulême, mais quand même, des fois, j'ai senti autour de moi une pression pour moi, enfin, de me marier, avoir des enfants, des choses comme ça. Et tu te dis, mais c'est les 2000... À l'époque, c'était 2015, 2016. Je dois encore subir toutes ces pressions-là, alors que, par exemple, oui. Donc, par exemple, cette chose-là, ça m'interpellait beaucoup. Enfin, aussi, je voyais que Sissi, elle voyageait, par exemple, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais assez étonnée par le fait qu'elle a réussi, en quelque manière, à se détacher de son rôle d'impératrice, femme et mère. Au 19e siècle, c'était quelque chose d'assez rare. Elle voyageait seule. Donc, enfin, seule, bien sûr, avec toute la suite, etc. Mais sans mari, sans plein de choses. Donc, c'était assez intéressant.
Est-ce qu'elle était féministe pour vous, Sissi?
Je pense que c'est peut-être un concept un peu... C'était un peu trop tôt pour se dire vraiment féministe. Mais elle voulait sa liberté. Donc, d'un côté, on peut dire aujourd'hui qu'elle était féministe. Mais
au-delà de sa liberté, elle voulait aussi jouer un rôle politique.
Elle voulait avoir un rôle politique. Mais en fait, elle s'est, enfin, il y avait Franz et tout l'entourage de la cour de Vienne qui ne la laissait pas vraiment avoir une voix politique. La seule chose qu'elle a vraiment réussi à faire, c'est d'avoir une voix dans la bataille pour l'Hongrie, enfin, de la cause hongroise. Donc cette chose-là, vraiment, elle a réussi à la faire. Et aussi, par exemple, des choix, genre par rapport à l'éducation des fils, et donc choisir des précepteurs par rapport à leur culture, aux habiletés, pas par rapport au rang. Donc ça, c'est par exemple, c'était quelque chose d'important.
Georgia Maras, dans votre bande dessinée, Une femme au-delà du conte de fées, vous ne gommez pas tout le côté glamour qu'on a de Sissi,
oui.
À travers les films interprétés par Romy Schneider. Mmh. C'est là, hein, vous la représentez, même si elle ne ressemble pas dans votre bande dessinée à Romy Schneider, c'est une très jolie femme. Vous montrez à quel point c'est important, comment aussi elle a pu jouer de cet atout, mais vous allez aussi raconter ces moments de doute, ces moments de chagrin, tout ce qu'on ne raconte pas justement dans un conte de fées.
Oui, et une autre chose que c'est assez important, c'est les liens avec, par exemple, l'image, la beauté. En fait, elle était une personne assez, assez simple et timide et réservée, mais elle a compris que pour une femme, le seul moyen pour, à l'époque, mais peut-être des fois aussi aujourd'hui, le seul moyen pour avoir une voix, c'était d'être belle, voilà. Et donc, elle a travaillé pour construire un masque qu'elle pouvait porter partout et porter ses personnages partout. Et c'est intéressant.
Et de contrôler son image.
Parce que contrôler son image.
Quand elle commence à vieillir, elle interdit à ce qu'on vienne la peindre.
Oui, et même des photos. Il n'y a pas des photos. Sauf vraiment des photos de très loin avec quand même un petit parapluie, on voit, donc on comprend pas trop comment elle est. Mais on n'a pas des photos d'elle après les 35 ans.
Est-ce qu'elle est progressiste, Sissi, pour vous, Georgia Maras?
Oui, elle a des idées assez libérales, mais. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est quand même un personnage qui n'est pas tout à fait, enfin, il est encore un personnage de l'époque, de cette époque-là. Donc, elle est grandie dans un milieu aristocratique. Elle a des idées très libérales et ouvertes, mais en même temps, elle dénie pas les origines, elle dénie pas un certain privilège qu'elle a parce que c'est aussi confortable. Voilà, c'est sa manière de vivre. Donc, aussi, cette chose-là, c'est, pour moi, intéressant de voir une personne qui a des idées, qu'elle pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses, mais quand même, elle reste. Enfin, elle ne va pas jusqu'au bout. Elle aurait pu faire beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Vous avez longtemps enquêté sur Sissi?
Oui, beaucoup. En fait, j'ai commencé à écrire cette histoire il y a une dizaine d'années. J'ai voyagé beaucoup, j'ai vu tous les endroits où elle a vécu. J'ai même vécu en Autriche dans une résidence aussi d'artiste pour faire des recherches. Et donc, je suis en Autriche, en Hongrie, en Allemagne, en Suisse. J'ai pris beaucoup, beaucoup de photos et j'ai lu beaucoup de documents.
Elisabeth de Bavière ou Sissi, dans votre bande dessinée éditée par Stenkis, Georgia Maras affronte aussi les affres d'une mère, hein, parce que vous mettez sur le même plan, son engagement politique, son engagement en tant qu'impératrice d'Autriche, son envie de s'émanciper, de contourner toute cette pesanteur qui l'entourait, tout le protocole qu'elle a réussi plus ou moins à contourner, mais vous lui donnez la même importance quand il s'agit de sa vie de mère et aussi de sa vie de femme.
Oui. C'est intéressant. Il y a un passage dans les livres où il y a Andrassy, le comte Andrassy qui parle et qui lui dit, vous m'étonnez parce que chaque fois vous me montrez un nouveau côté de vous. Une fois je vous vois comme un athlète, une fois je vous vois comme un révolutionnaire, une fois comme une mère, une fois comme une impératrice. Qui êtes-vous? Et elle dit, non, je suis tout ça. Il faut pas m'encadrer dans une certaine chose parce qu'elle était tout ça.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Georgia Maras est mon invitée aujourd'hui pour parler de sa bande dessinée éditée chez Stenkis. Sissi, une femme au-delà du conte de fées, on l'a dit, c'est plusieurs aspects de la femme d'Elisabeth de Bavière que vous réussissez à mettre dans ce récit, dans ce roman graphique, c'est-à-dire la Sissi femme indépendante et même rebelle, on peut le dire, hein, puisqu'elle a refusé toutes les obligations protocolaires de la cour d'Autriche, entre autres parce qu'elle voulait se promener sans garde du corps, mais elle était aussi une vraie battante politique, c'est-à-dire qu'elle avait son ploi, elle influençait son mari, elle avait aussi des idées politiques, notamment concernant la Hongrie, en prenant des choix qui n'étaient pas populaires. C'est une femme qui compte par bien des aspects. Elle a été aussi une amoureuse, comme dans un roman d'amour, une mère très très impliquée, une femme qui contrôle son image. Ça, vous l'avez très bien expliqué dans votre roman graphique, Georgia Maras, cette femme qui, se sachant vieillir, va refuser d'être photographiée. Alors tout ça, ce sont les bons côtés. Mais alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que il y a aussi les côtés un peu plus, douteux. Hein, c'est-à-dire, c'est elle est aussi opportuniste, on peut le dire, Sissi. Hein. Mm-hmm. Elle est aussi très libérale. Elle va même apparaître comme une opportuniste calculatrice en plaçant son argent là, dans des lieux très sûrs. Est-ce qu'au bout de cette enquête, au bout de votre roman graphique, Georgia Maras, vous avez changé d'avis sur Sissi?
Bien sûr, j'ai changé l'avis que j'avais par rapport au film, par rapport à l'image que j'avais toujours connue de Sissi. Avec les films de Romy Schneider. Mm-hmm. Et puis j'ai vu...
Réalisé par Ernst Marischka, donc.
Oui, voilà, les films de Marischka. Et puis, j'ai vu un documentaire. Moi, je suis très passionnée par l'histoire, donc je regarde énormément de documentaires. Et donc, j'ai découvert, quand j'avais une quinzaine d'années, ces documentaires sur la vie de Sissi. Ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Et donc, c'est pour ça. Et il y a une autre chose que je voulais dire. Il y a un très beau film de Visconti qui s'appelle Ludwig.
Exactement.
Et, oui.
Alors, je voulais vous en parler.
En fait, dans ce film, Visconti, il décrit très très bien les Habsbourg. Je pense qu'il avait une sensibilité spéciale, une connaissance très profonde du milieu aristocratique et des lieux, de tout ça, des enjeux.
Et là, elle devient déjà ambiguë, la Sissi, chez Luchino Visconti.
Oui, oui. Mais c'est impressionnant de voir Romy Schneider jouer les mêmes rôles, mais elle est totalement différente. Ça m'a beaucoup, effrayée, touchée, enfin, je ne sais pas. C'était très intéressant de la voir avec cette autre lumière dans les yeux. Moi, je pense que la Sissi de Visconti, c'est beaucoup plus proche de la Sissi que, enfin, réelle, peut-être, ou celle que, quand même, j'ai voulu raconter.
Justement, est-ce que l'époque d'aujourd'hui compte beaucoup dans votre manière de jeter un regard sur cette époque de Sissi, sur le personnage de Sissi? Bon, parce que effectivement, les films d'Ernst Marischka, ce sont des films à l'eau de rose, qu'on passe généralement les semaines de fête avec une Romy Schneider, on ne peut plus, et glamour. Mais on comprend peut-être cette attitude vis-à-vis de cette histoire. Les films ont été réalisés au milieu des années 50, c'est-à-dire le monde venait de subir une grande guerre. Donc tout ce qui était guerre fratricide est effectivement évacué des trois films tournés par Ernst Marischka. Ce n'est pas le cas dans les années 70, quand Luchino Visconti décide de reprendre l'histoire de Sissi. Et vous-même, Georgia Maras, pour faire cette bande dessinée, est-ce que vous avez été influencé par ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se sent aujourd'hui?
Oui, c'est inévitable. Enfin,
c'est ainsi que je l'ai lu, parce que d'une part parce que l'Europe est très présente en tant qu'Europe,
oui,
dans votre récit.
C'est vrai.
Et puis surtout, il y a ce côté, c'est quoi être une femme aujourd'hui? Quelle place les femmes ont dans le pouvoir aujourd'hui? Là, on est vraiment dans cette époque post-MeToo.
Oui, bien sûr. Moi, quand je m'intéresse à quelque sujet historique, je vois est-ce que ces sujets, cette thématique, ces personnages peuvent m'apporter quelque chose aujourd'hui, à moi? Est-ce que ça peut me parler? Voilà. Et donc, c'est comme ça, bien sûr, je ne suis pas une historienne. Pas, historienne, merci beaucoup. Pour moi, ce qui compte, c'est de raconter. Mes histoires sont toujours un véhicule pour raconter quelque chose d'aujourd'hui, même si je parle du passé. Donc là, il y a beaucoup du présent, il y a beaucoup de ma vie personnelle, de la vie des gens qui m'entourent, de la société. Il y a toujours un peu ça, même si je parle d'autres choses.
Alors, vous avez décidé d'opter pour un graphique graphisme très très simple, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de cases éclatées, de double page, on reste dans un style plutôt classique, sans fioritures, tout en nuances, mais avec seulement deux couleurs, hein, c'est-à-dire le noir, blanc, gris et toutes les nuances du gris.
Oui, quelqu'un m'a dit que mon dessin est assez austère. Peut-être c'est vrai. Je pense que j'essayais de, je voulais donner une idée de tout, enfin des décors, des costumes, de la réalité de l'époque, mais en essayant d'être essentiel et d'aller à l'essentiel. Donc l'important c'est les récits. Donc pour moi les dessins c'est hyper important, donner des atmosphères c'est très intéressant, important. Mais après l'important c'est l'histoire. Donc j'essayais d'aller à l'essentiel, même si pour aller à l'essentiel j'ai travaillé très durement pendant des années. Donc pour faire une page qui se rassemble tout simple, j'ai mis beaucoup de temps. Donc c'est un peu comme les ballerines qui ne montrent pas la douleur quand ils dansent très légèrement sur leur pointe, c'est la même chose.
Georgia Maras, il fallait parler un peu de votre parcours. Si, une femme au-delà du conte de fées, votre deuxième roman graphique ou deuxième bande dessinée. Vous avez déjà publié Munch avant Munch.
Oui.
Ça parle de quoi?
Ça parle de la vie d'Edvard Munch, les peintres norvégiens. Et en fait, ce livre-là a été publié avant en Italie, en 2014. Donc c'est un bon moment. Et puis, il a été traduit par Stenkis en France. Et c'est toujours, enfin, c'était une commande parce qu'il y avait une expo à Gênes pour les 150 ans de la naissance de Munch. Et donc, mon éditeur m'avait dit, fais quelque chose sur Munch, un livre illustré, qu'est-ce que tu veux? T'as la liberté de faire tout ce que tu veux. Et puis, j'ai lu son journal, ses journaux intimes, et c'est super intéressant. Déjà, Munch, c'était un de mes peintres préférés, et c'était un de mes graveurs préférés, déjà. Donc, avoir l'opportunité de fouiller dans ces journaux, c'était génial, et j'ai découvert un personnage assez intéressant. Et drôle, un peu cynique, mais très drôle. Et aussi une réalité autour de lui vraiment intéressante. C'était l'époque un peu de la bohème, mais en Norvège. Il y avait tout un débat sur l'amour libre, très intéressant et très moderne. Et j'étais étonnée d'entendre ces discours au 19e siècle en Norvège. Et puis il y avait tout, enfin dans la bande dessinée je raconte un peu son parcours depuis quand il décide de devenir peintre et donc de quitter ses études d'ingénieur, donc vers 17 ans plus ou moins, et jusqu'à quand il commence à avoir un petit peu de succès. Son premier tableau va être acheté quand il a vers les 35 ans. Donc c'est vraiment les débuts. Donc c'est toute sa quête artistique et personnelle.
Et vous êtes retrouvée un peu dans cette quête?
Oui, parce que en tant que, je pense que quand tu essayes de devenir quelque chose, quand tu essayes de chercher ta voix, ça interpelle, je pense, tous les gens qui veut essayer de créer, enfin qui sont dans les domaines artistiques, je pense. Donc oui, je me suis retrouvée un peu.
Vous habitez depuis maintenant 4 ans à Angoulême, Georgia Maras. Quel est votre parcours, vous, l'Italienne de jeune? Comment êtes-vous arrivée à la bande dessinée?
J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée dans ma vie, depuis, je pense, toujours. Donc
depuis toujours, ça veut dire quoi?
Depuis quand j'étais toute petite, je dessinais tout le temps. Et il m'est donné à lire, même si je lisais pas le Mickey Mouse. J'ai regardé, j'étais très très fascinée. J'ai resté des heures à regarder les cases. Et j'ai regardé beaucoup de dessins animés. Et je disais, mais moi aussi, je veux créer des histoires comme ça qui me passionnent. Et je pense, j'avais peut-être 6 ans, un truc comme ça. Aussi, j'aimais beaucoup aussi l'histoire. Donc, pour un moment, j'étais un peu entre ça, et l'histoire, les dessins et l'écriture, etc. Et aussi le théâtre, parce que je faisais aussi beaucoup de théâtre. Et puis je dis, si je fais de la bande dessinée, peut-être je peux mettre tout en même temps. Donc je fais jouer mes personnages au lieu de moi. Je fais, je dessine et je peux faire des recherches. C'est un métier, en fait, la bande dessinée et les romans graphiques, je pense que c'est un métier pour les curieux. Moi, je suis très curieuse et des fois, j'aime bien aborder des sujets variés et créer des histoires sur ces sujets qui m'intéressent, ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Donc,
et votre parcours de formation ?
Mon parcours de formation, j'ai fait le lycée artistique à Gênes. Donc, au lycée, en Italie, on peut déjà choisir plus ou moins qu'est-ce qu'on veut faire. Après, le lycée artistique, puis j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts à Gênes. Mais je suis diplômée en graphic design, donc rien à voir. Et j'ai fait une année d'Erasmus à Paris. Et c'est là que j'ai, il y a une dizaine d'années, donc c'est là que j'ai appris un peu, je lisais énormément des bandes dessinées, quand je suis rentrée à Paris 8, il y avait une communauté de gens qui faisaient fanzine et qui faisaient du Tour de France avec les festivals. Donc, ils allaient au festival avec leur stand. Et là, j'ai vu la quantité de bandes dessinées qu'il y avait en France, la quantité de bandes dessinées, de romans graphiques, etc. C'était assez intéressant. Et je me suis dit, OK, je veux travailler en France et avoir l'opportunité de développer ce style-là de romans.
Voilà. Et donc, vous voilà à Angoulême. Dans la maison des auteurs d'abord ?
Oui, dans la maison des auteurs d'Angoulême. Oui, c'est en fait c'est une résidence internationale. Elle est pas très très connue, mais elle est paradoxalement très très connue à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment de partout, de l'Amérique, de l'Inde, de Taïwan, et c'est un endroit vraiment magique où il y a vraiment entre une vingtaine, 25 des gens. Et
vous avez décidé, après ce cursus, de rester sur place à Angoulême ?
Oui, pour l'instant, oui. Après, on verra. Je suis ouverte à toute possibilité que la vie peut m'offrir, mais pour l'instant, je veux rester à Angoulême parce qu'il y a une belle communauté et d'artistes, auteurs. Pour l'instant, je veux développer ma carrière là-bas.
Votre prochaine bande dessinée aura aussi un fond historique ?
Presque. En fait, la prochaine histoire que j'ai dans ma tête, je n'ai plusieurs, mais un des prochaines que je voudrais aborder, ça sera avec un scénariste, mais en me connaissant, on va le coécrire parce que j'aime beaucoup travailler dans l'histoire. Donc, on va coécrire cette histoire. Ça sera pendant les années 50-60 en Italie. Et c'est une histoire familiale où il y a des problèmes assez particuliers. C'est une famille avec des problèmes économiques et un des filles, elle est lesbienne. Donc cette chose crée beaucoup de problèmes dans la famille à l'époque. Et comme scénariste, il est toscan, il vient de la Toscane, il voulait un peu... il voulait situer l'histoire en Toscane pendant ces années-là. Mais moi, je viens, en fait, je suis des jeunes, mais je suis une fille d'immigrés. Voilà. Et mes parents venaient du sud d'Italie. Mon père de la Sardaigne. C'est pas vraiment le sud, mais c'est naïf. Et ma mère de la Calabrie. Mmh. Et il y a.
Enfin, immigrés de l'intérieur, quoi.
Oui, mais c'était un très.
Bien sûr.
C'était quand même un changement et la ville était très dure dans l'Italie, c'est un pays vraiment divisé à l'époque. Vraiment, j'ai regardé beaucoup des documentaires, d'interviews des sociologues. C'est frappant comme c'est le monde était différent. Mais même ma mère qui, elle a presque 60 ans maintenant, mais jusqu'à ses 6 ans, elle avait pas les chaussures. Juste pour dire comme elle était différente, la vie. Elle habitait en campagne, c'était une vie vraiment très différente.
Pour terminer, Georgia Maras, Sissi, une femme au-delà du conte de fées qui paraît chez Stankis est paru en Italie. Vous l'avez écrit en italien au début ?
Non, je l'ai écrit en français.
Directement en français. Oui. Bravo.
Merci.
Vous pouvez réécouter ce réveil culturel avec Georgia Maras en passant par franceculture.fr ou en passant par l'abonnement au podcast de l'émission. Une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Philippe Mercher. Bon 8 mars, Georgia Maras.
Et merci, bon 8 mars à tout le monde. Thank you.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture présente le spectacle Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac, mis en scène par Christian Schiaretti. Victor, 9 ans, soupçonne son père d'avoir une relation avec la femme de son meilleur ami. Doté d'une grande lucidité, l'enfant mène rondement le jeu, pressé de faire jaillir la vérité. Inspiré par l'esthétique farfelue de Jarry et l'esprit subversif d'Ada, la pièce, sous ses allures de vaudeville, incite à la provocation et à la révolte. Victor ou les enfants au pouvoir, jusqu'au 30 mars, au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, un partenariat France Culture. France Culture et le cinéma Majestic Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous mardi 12 mars à 20h avec Sunset de Laszlo Nemes. En 1913, au cœur de l'Empire austro-hongrois, Iris Slater revient à Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat. À la veille de la guerre, cette quête sur ses origines va entraîner la jeune femme dans les méandres d'un monde au bord du chaos. Projection en avant-première, suivie d'un débat avec le réalisateur, oscarisé pour son premier film, Le Fils de Saul, et animé par Antoine Guillot. Plus d'infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr. Le dimanche à 12h45 sur France Culture, Signe des temps, Marc Wetzmann.
Les écrivains, les cinéastes, les metteurs en scène envisagent le monde autrement que le font les politiciens, les sociologues et les journalistes. Ils posent d'autres questions, et quand ils posent les mêmes, ils les posent différemment.
La dissuasion nucléaire reviendrait à dire que pour éviter la guerre, il suffirait de la mimer. Or, dans ce jeu, les acteurs importent peu, des machines apocalyptiques décident pour nous. Signe des temps, le réveil du tigre nucléaire, par Marc Wetzmann, avec Jean-Pierre Dupuis, philosophe, ce dimanche à 12h45 sur France Culture. Vous êtes sur France Culture, tout de suite, le journal de 6h30, avec Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, une journée fériée à Berlin, nous dira notre correspondant en Allemagne, Ludovic Piétenu. On est encore loin du compte sur une égalité aussi du temps de parole entre les femmes et les hommes dans les médias en France, souligne un rapport du CSA publié aujourd'hui. Aux États-Unis, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, condamné à 4 ans de prison pour malversation financière hier. Les procureurs avaient réclamé entre 19 ans et 24 ans de prison, précision depuis Washington avec Grégory Phillips dans un instant. Un 8 mars très spécial à Berlin, puisque pour la première fois, cette journée internationale des droits des femmes devient un jour férié. Férié pour près de 4 millions d'habitants, puisque Berlin, dans une Allemagne fédérale, est à la fois la capitale, une ville et un État libre de décider de ses jours fériés. Berlin affiche donc sa différence par rapport au reste de l'Allemagne. Notre correspondant permanent, Ludovic Piétenu.
Berlin porte haut ses couleurs progressistes et pourquoi pas avec cette décision influencer quelques-uns des 15 autres États allemands et au-delà en Europe. Franziska Giffey, la ministre allemande des femmes.
C'est une décision très importante qui nous donne du vent dans les voiles au niveau fédéral car l'égalité n'est pas là. 21% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes en Allemagne, 53% pour les pensions de retraite et toujours ce plafond de verre dans les grandes entreprises allemandes du DAX. Nous venons de changer la loi et d'instaurer des quotas. Ça va bouger.
Mais faire de ce 8 mars un jour férié n'a pas été simple, se souvient Iris Spranger, cette élue social-démocrate d'un quartier populaire de Berlin, est à l'origine d'une pétition.
Dès le premier jour, nous avons eu le vent de face et cette forte opposition venait des démocrates chrétiens de la CDU, des libéraux du FDP et de l'extrême droite AfD. J'espère que les Berlinoises et les Berlinois vont profiter d'un joli week-end prolongé, mais ce doit être aussi une journée de lutte et que ça le soit chaque année.
Car la parité reste à gagner dans une Allemagne encore très patriote. 100 ans après que les femmes allemandes ont obtenu le droit de vote, des Berlinoises veulent ce soir pousser un cri pendant 100 secondes.
Wir streiken.
Et dès ce matin, sortir des chaises dans les rues et sur les places, s'asseoir et ne rien faire, pour prouver, disent-elles, que quand les femmes arrêtent de travailler, le monde ne bouge plus.
Ludovic Piétenu à Berlin pour France Culture. En France, les femmes sont toujours sous-représentées à la radio et à la télévision. C'est ce que dit le CSA dans son nouveau rapport publié ce matin. L'année 2018 affiche même une légère baisse. En moyenne, on compte la présence de 39% de femmes, toutes chaînes confondues. C'est un point de moins que l'année dernière. Seule augmentation, le nombre d'expertes interviewées dans les médias enregistre une hausse de 2 points par rapport à 2017. Mais on est encore loin de la parité avec seulement 37%. 40% de femmes parmi les invités. Il reste donc encore beaucoup de travail à faire, souligne Pauline Chabert, coordinatrice du projet Les Expertes, un annuaire en ligne créé en 2015 pour permettre aux journalistes de trouver des femmes expertes.
C'est pas assez, c'est-à-dire que le fait de créer des outils pratiques comme Les Expertes, c'est-à-dire un annuaire en ligne, facile d'utilisation, ça a permis aux journalistes de l'utiliser de manière assez massive. Par contre, là où ça pêche, certainement, c'est en fait la création d'un réflexe égalité. C'est-à-dire que je pense que si demain, on veut qu'il y ait vraiment la parité sur les plateaux télé et radio, il faut que chaque journaliste et chaque étudiant et étudiante journaliste se crée un réflexe égalité. C'est-à-dire que de manière systématique, quand on organise une émission, on pense à avoir un panel qui est paritaire et mixte. Donc il y a un enjeu de prise de conscience. Et la deuxième chose, c'est aussi la question des stéréotypes dans l'information. La façon dont on parle des sujets d'actualité, par exemple les femmes politiques, systématiquement on va leur poser la question de comment est-ce qu'elles gèrent leur carrière professionnelle avec leur carrière politique. Ou systématiquement l'article va faire mention de la manière dont la personne était habillée, etc. Les hommes politiques, on va beaucoup moins leur poser la question, on va beaucoup moins parler de la manière dont ils s'habillent, on va pas utiliser les mêmes adjectifs. De la même manière sur les violences, par exemple, on va parler d'une affaire de meurtre ou on va parler d'une dispute conjugale alors qu'on est face à de la violence conjugale ou à carrément un féminicide.
Des propos qui par Audrey Dumain. Plus de chiffres et d'analyses de ce rapport sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr et l'invité des matins de France Culture sera tout à l'heure la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le cardinal Barbarin annonce sa démission après sa condamnation hier par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur les victimes présumées du père Prénat. Pour l'acte 17 des Gilets jaunes, une mobilisation, cette fois sur 3 jours, mais aussi avec l'entrée en lice de Gilets verts. Les groupes écologistes Alternatiba et ENVCOP21 se joignent aux Gilets jaunes. C'est la première fois que les deux mouvements vont officiellement manifester ensemble. Les luttes doivent converger pour porter leurs fruits, selon Pauline Boyer, une des porte-paroles de ce mouvement vert.
Dès le début, il y a eu des personnes du mouvement climat qui ont participé aux manifestations des Gilets jaunes. Et depuis le début, il y a aussi des Gilets jaunes qui ont participé aux marches pour le climat, notamment à la marche du climat du 8 décembre, où il y a eu des convergences dans plusieurs villes en France entre justement le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement climat. Donc là, c'est dans la continuité des actions qu'on a déjà faites. Donc à un moment où le gouvernement n'est pas à la hauteur ni du défi climatique, ni de la crise sociale qui a lieu en ce moment, c'est important de construire un mouvement citoyen qui unit ses forces pour la justice sociale, la justice climatique et la justice fiscale. C'est de ça dont on a besoin en ce moment pour créer un rapport de force et obliger le gouvernement à prendre ses responsabilités et à enfin mettre en place les mesures concrètes. Les mesures concrètes, on les a, le réseau Action Climat, le pacte Finance Climat, on a toutes les solutions. Il manque juste des décisions politiques courageuses et ambitieuses pour réorganiser la société, pour que, on puisse vivre bien aujourd'hui et pouvoir vivre encore demain.
Pauline Boyer répondait à Maïwenn Bordron. Aux États-Unis, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a été condamné hier soir à 47 mois de prison. C'est presque 4 ans de détention. Une peine considérée comme légère aux États-Unis car les procureurs avaient réclamé entre 19 et 24 ans de prison. Manafort était poursuivi pour une énorme fraude fiscale, plus de 55 millions de dollars dissimulés au fisc américain. La fraude avait été découverte par les équipes du procureur Mueller en charge de l'enquête russe à Washington, Grégory Phillips.
Devant le tribunal d'Alexandria en Virginie, Paul Manafort n'a pas exprimé de regrets, mais a réclamé la compassion du juge. Le consultant républicain, éphémère directeur de campagne de Donald Trump pendant 2 mois à l'été 2016, a perdu de sa superbe, lui qui dans la capitale fédérale était connu pour ses goûts de luxe et son immense réseau. Un peu moins de 4 ans de prison donc, mais Manafort en risque 10 de plus la semaine prochaine dans un autre procès, où cette fois il est accusé d'avoir dissimulé ses activités de lobbyiste au profit de l'ancien président ukrainien, le pro-russe Yanukovych. La chute de Manafort a été provoquée par les équipes du procureur spécial Robert Mueller qui, en enquêtant sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Trump et des officiels russes, ont découvert ces fraudes antérieures à la campagne de 2016. Donald Trump lui sous-entend qu'il pourrait accorder le pardon présidentiel à son ancien conseiller, estimant qu'il est victime de ce que Trump appelle la chasse aux sorcières menée par le procureur Mueller.
Une gigantesque gigantesque panne électrique est en cours actuellement au Venezuela depuis hier soir. Caracas et la majeure partie du pays sont dans le noir complet. Le président élu Nicolas Maduro a immédiatement dénoncé ce qu'il qualifie déjà de sabotage de la principale centrale électrique du pays. Les lignes téléphoniques et Internet sont également coupées. Il y a 5 ans, le vol MH370 de la Malaysian Airlines assurant la liaison entre Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, et Pékin, disparaissait des écrans radars une heure seulement après son décollage. À son bord se trouvaient 239 passagers et membres d'équipage, dont les deux tiers étaient des passagers chinois. Leurs familles se rendent aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Pékin. Elles attendent toujours de connaître la vérité, Dominique André.
D'accord, bonne nuit. Ce sont les derniers mots du copilote du MH370 avec le sol. Depuis 5 ans, M. Zhang Rui est hanté par cette question. Où est passé le Boeing 777 jamais retrouvé malgré des recherches maritimes les plus importantes jamais organisées? Les quelques débris découverts au large des côtes est de l'Afrique n'ont pas permis d'élucider le mystère. Sa mère, âgée de 71 ans, était l'un des 154 passagers chinois. Cet ingénieur nous reçoit dans son appartement cossu dans le nord de Pékin. Il continue de chercher la vérité en restant en contact avec les familles de l'avion disparu.
Je ne peux pas dire quels sont les gouvernements qui connaissent la vérité, mais je suis sûr d'une chose, toutes les informations ne sont pas données. Je suis persuadé que la vraie cause, c'est l'état dans lequel se trouvait l'avion. Mais il y a des gens qui veulent le cacher. Le rapport qui a été publié après les recherches n'est pas basé sur toute la vérité. Il a été élaboré de manière bien réfléchie pour protéger les intérêts de toutes les parties, mais la justice finira par triompher. Cette affaire ne restera pas un secret dans l'histoire.
Monsieur Zhang Rui montre un colis qu'il vient de recevoir de Malaisie. Ce sont des biscuits. Les familles des victimes du vol MH370 sont restées très proches.
Un temps en majorité ensoleillé aujourd'hui sur la France métropolitaine dès ce matin, à l'exception de la frontière belge, du massif central et le long des Pyrénées où des averses sont annoncées. Les températures sont comprises entre 5 et 14 degrés ce matin, avec 5 à Clermont-Ferrand, 7 à Belfort, 9 à Paris et jusqu'à 14 degrés sur la Corse. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, c'est l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Minier, bonjour.
Bonjour Sophie Delpont.
Alors c'est la journée internationale des droits des femmes, mais il y a encore bien du chemin à faire pour parvenir à l'égalité et à la parité dans de nombreux métiers.
Et oui, dans les médias par exemple, là, je vous fais le verre à moitié plein Sophie Delpont, la proportion des femmes s'est considérablement accrue, en particulier dans le service public et notamment dans les fonctions d'expertise où l'on est passé de 18% de femmes intervenantes à l'antenne en 2013 à 42% aujourd'hui. Dans l'humanité, Yvette Roudy, la ministre des droits des femmes qui a fait voter en 1983 la loi sur l'égalité professionnelle longtemps restée sans effet, estime que si les femmes avaient choisi cet objectif en priorité, elles auraient gagné depuis longtemps. Par exemple, en cessant le travail le 8 mars et en paralysant le pays. L'ancienne ministre évoque la différence de salaire entre hommes et femmes et le travail à temps partiel où les femmes se sont fait coincer et marginaliser. Aujourd'hui, la parité par quota peut avoir des effets pervers, comme le montre Cecilia Garcia Peñalosa dans Le Monde. Et l'économiste cite une étude sur les concours de recrutement dans le système judiciaire espagnol, où l'augmentation de la proportion de femmes dans les jurys n'a pas eu l'effet escompté. Un jury plus féminisé réduit le taux de réussite des candidates, car les femmes qui y siègent sont plus exigeantes envers elles. Pour réduire les inégalités dues à la maternité dans une carrière universitaire, les universités américaines ont accordé une année supplémentaire par enfant, une mesure que par souci d'égalité, égalité de genre, elles ont étendue aux hommes. Résultat, le taux de titularisation des femmes a chuté de 22%, alors que celui des hommes augmentait. Car ceux-ci mettent à profit cette période pour travailler et publier davantage. Et l'introduction de quotas en politique peut avoir pour effet un renforcement des stéréotypes de genre. La mauvaise gestion d'une municipalité par une femme ne sera pas imputée à une personnalité défaillante ou à une affiliation politique, comme pour les hommes, mais à un défaut relevant de sa condition de femme. D'où la probabilité restreinte qu'une femme succède à une autre femme comme édile. Dans la revue Le Cercle Psy, Justine Cannon évoque une étude parue dans la revue Science qui s'interroge sur la pérennité des différences de genre dans des situations professionnelles professionnelle où l'égalité et la parité devraient les estomper. En fait, c'est l'inverse qui semble se produire. Dans les pays où la parité progresse le plus, les différences de comportement entre hommes et femmes tendraient à s'étoffer sur la prise de risque, la patience, l'altruisme, la confiance, la réciprocité négative et positive. Les différences continuent de s'affirmer en fonction du genre. L'une des explications, c'est qu'une société égalitaire donne à chacun une plus grande latitude pour exprimer ses préférences. Là où les femmes sont minoritaires, elles subiraient une pression de l'environnement masculin pour adopter des comportements plus conformes au modèle dominant. Cela dit, la parité n'est pas une forme de passe-droit dans un système républicain réputé universaliste, mais une façon de construire une démocratie mixte, souligne Sylvia Nagasinski dans Le Figaro. Le suffrage dit universel fut d'abord exclusivement masculin. Lorsque Tocqueville cite les exclus du suffrage dans la démocratie américaine, les esclaves, domestiques, indigents, il ne songe même pas à mentionner les femmes. La philosophie relève que notre époque vit un double mouvement paradoxal. D'un côté, on n'a jamais autant parlé des femmes et traqué les sexismes avec la parité, la lutte contre les violences sexuelles et conjugales, les efforts pour réduire les inégalités économiques de genre, la féminisation des noms de métiers ou de fonctions. Et de l'autre, avec la queer theory, issue des travaux de Judith Butler, le gender a pris un tout autre sens. C'est une identité personnelle construite sur les pratiques sexuelles de chacun et supposée indépendante de la différence sexuelle, laquelle résiste malgré tout, car il n'y aurait aucun sens à se dire bisexuel s'il n'y avait pas au moins deux sexes. Et de même, si les mots hétérosexuel, homosexuel ou transsexuel ont un sens, c'est que l'autre sexe est toujours déjà là. Dans la revue Études, Camille de Villeneuve répond à l'invitation de Michel Perrault et Laure Murat à déconstruire la galanterie à la française, une culture qui a fait le plaisir social des relations entre les femmes et les hommes et fut le fruit d'une évolution positive de la civilisation, mais qui assigne une place réservée aux femmes et euphémise la violence des relations de genre. La philosophe qui a mené l'enquête sur les doctrines médiévales du pur amour et de la courtoisie chevaleresque suggère en remplacement pour notre époque l'attitude de la civilité, moins connotée sexuellement. Non sans noter au passage que la galanterie a pavé les marches qui mènent à l'empire du désir, là où règnent des normes qui ne sont pas celles de la vie civique, des gestes doux et respectueux, des seuils à franchir, des attentions qui invitent à la réciprocité du désir. 6h45, vous écoutez France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, dans les enjeux internationaux, l'Ukraine vers des élections.
Et oui, des élections à 3 semaines maintenant de ce premier tour de l'élection présidentielle. Les deux principales figures politiques sont en désaffection dans les sondages. Les accusations de fraude et corruption sont lancées. Et un outsider surprise et amateur, acteur de série, pourrait peut-être l'emporter. Alors 5 ans après le début du conflit, toujours en cours, va-t-on vers les élections, de la désillusion. On voit ça avec vous, Christine Dugoin-Clément, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes chercheur au think tank Cap Europe et à l'IAE Business School de la Sorbonne. Vous êtes co-auteur, autrice de l'Ukraine entre déchirement et recomposition. C'était chez l'Harmattan en 2015. Alors cette fois, ce sont sans doute les élections les plus ouvertes, hein, avec 44 candidats, une étrange campagne, pas vraiment de débat, mais des attaques individuelles. Et ce candidat surprise, Volodymyr Zelensky, qui est un acteur qui dit vouloir vraiment aider l'Ukraine. Cette semaine, il donnait des interviews. Et en tout cas, toujours en première position dans les sondages. C'est un peu le fait marquant de ces dernières semaines, vous diriez ?
Ce qui est surtout frappant, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, qui n'a pas de position très très claire ou de programme particulièrement clair, mais qui remporte un assentiment assez fort. Cela dit, vous le disiez, c'est tout à fait juste, à l'instant T, les élections sont extrêmement ouvertes et il est très délicat de savoir qui sera le président ukrainien ou pas, ce qui est un fait rare à ce niveau d'incertitude.
Alors on va en venir à cette ouverture, mais déjà Zelensky, alors c'est un signe de quoi ? Donc je le disais, c'est un acteur de série dans laquelle justement il joue un historien parvenu au pouvoir en Ukraine, candidat anti-corruption. C'est un signe de la lassitude ou de l'enthousiasme des électeurs, vous diriez ?
Alors, ce qui est assez intéressant, vous le disiez, donc il a le nom de son parti reprend le nom de la série dans laquelle il joue le personnage titre, donc serviteur du peuple. Et pour recadrer un petit peu pour les gens qui sont peut-être pas familiers de l'Ukraine, dans cette série, il incarne donc un professeur qui dénonce la corruption du gouvernement ukrainien dans une vidéo sur Internet qui devient virale et qui de facto déconstruit tous les problèmes de corruption. Donc on voit bien que le glissement de la popularité de son personnage de série à la personne réelle qu'il est joue de ce désir de lutte contre la corruption et de changement. Pourquoi ? Parce que quand on regarde au final, les Ukrainiens ont mené deux révolutions, la révolution orange dans un premier temps qui est plus lointaine, dont on parle moins. La révolution donc de 2013 et 2014 du Maïdan, en espérant avoir un renouveau des figures politiques, avoir la fin du conflit qui se déroule encore dans le Donbass, le retour de la Crimée qui à l'heure actuelle est sous contrôle russe. Ils espéraient aussi avoir une lutte contre la corruption assez forte, une transparence plus accrue, etc. Or à l'heure actuelle, on voit que beaucoup de ces réformes qui étaient d'ailleurs demandées par le FMI, par les partenaires européens, sont au point mort, notamment celles sur la corruption. On le voit très clairement, on a des problèmes entre les différents bureaux, donc le bureau de lutte contre la corruption, l'agence de prévention de la corruption, la procuration générale. Et chacun de ces entités devient auto-bloquante, ce qui a fait que très très peu de personnages connus pour leur corruption sont à l'heure actuelle inquiétés.
Oui, alors qu'on en revienne au candidat, et on va dire un mot justement de la corruption et notamment de l'action de Porochenko à cet égard, mais juste sur les sondages, c'est ça qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'effectivement ce Zelensky est quand même assez en avance sur à la fois Petro Porochenko et à la fois sur Yulia Tymoshenko. Il a donné à 25% dans le dernier sondage, même s'il y en a quasiment tous les jours, je crois, c'est quasiment 10 points devant les deux autres. Comment est-ce que ça s'explique, à votre avis ?
Alors, encore une fois, il incarne une figure novatrice qui est sortie, du moins sur le principe, qui est sortie des canaux politiques classiques. Donc ça fait quelque chose un certain renouveau. Il présente aussi le souhait de vouloir mettre en place un gouvernement très technocratique, prêt à s'allier avec toutes les bonnes volontés, une démocratie directe et participative réelle. Donc il répond à ce niveau-là à beaucoup d'aspirations. Par contre, il est très très flou sur le reste, ce qui permet d'éviter de fâcher trop de gens. Quand on regarde donc notamment sa position, que ça soit par rapport à l'OTAN, au FMI, à la Russie ou à l'Europe, bon, il est assez peu clair. Il se dit prêt à négocier au niveau du conflit, il se dit anti-guerre et arrêt du conflit, certes, mais on ne sait toujours pas tellement comment. Pour revenir au point des sondages, c'est assez compliqué puisque, comme vous le dites, il y en a tous les jours. Beaucoup d'Ukrainiens à l'heure actuelle déclarent finalement ne pas avoir fait un choix arrêté, et certains de ces sondages sont produits à des fins politiques aussi.
Oui, et alors pour Porochenko, 16% quand même, c'est assez faible, hein, par rapport au premier tour de la dernière fois, deuxième tour, pardon, où il avait quand même fait 54%. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? Est-ce que c'est qu'il n'a pas rempli, comme on le dit, l'entièreté de ses promesses de campagne, et notamment mettre fin à la guerre qu'il avait dit le plus rapidement possible ? Est-ce que c'est son bilan économique un petit peu branlant, chancelant, même si les investisseurs reviennent ? Ou est-ce que c'est ces fameuses affaires, notamment anticorruption. Là encore récemment, il a été pris dans une affaire avec ce fameux Gladkovski, qui était un de ses associés et qui lui-même est en train de tomber ou a été licencié parce que pris dans une affaire de trafic, détournement de fonds.
Alors, le Petro Porochenko, il a quelques forces et quelques faiblesses. Donc ses forces, on les voit assez facilement dans son slogan de campagne, qui est armée, langue, foi. Donc ça veut dire qu'il va essayer tout du moins de s'appuyer sur un électorat relativement conservateur, patriote, en essayant d'incarner un principe de continuité, donc d'une relative stabilité. Il essaye de profiter de quelques-uns des succès politiques, l'instauration de la langue ukrainienne que l'on a pu avoir notamment à l'école, la délivrance des visas, qui était une demande forte du Maïdan pour les Ukrainiens pour les déplacements en Europe. Néanmoins, pour beaucoup d'autres choses, il est en bien plus mauvaise posture. Vous le disiez, le conflit ne s'est pas arrêté. On est dans une solution du pas de paix, pas de guerre. la corruption est complètement bloquée. Et cela lasse, puisque même dans les affaires pour lesquelles il a été impliqué, à chaque fois, les appareils d'État ont été plus ou moins trustés et plus ou moins utilisés pour bloquer les affaires. Mmh. Quand je vous parlais tout à l'heure rapidement de la lutte que l'on a entre le NABU, le NAPC et la procuration, donc le Bureau de lutte contre la corruption, l'Agence de prévention et puis la Procuration générale. La procuration générale est tenue par Yuri Loutchenko depuis 2017 et qui est connu comme étant un homme de Porochenko. Donc beaucoup des actions qui pourraient être entamées par chacune des entités devient bloquée par l'autre. Les accusations mutuelles entre les uns et les autres volent, ce qui rend les choses bien plus compliquées. Quand vous parliez de l'affaire de corruption récente, ce n'est pas la première. On pourrait tout à fait parler notamment de Nassirov, qui a été inquiété par le NABU, notamment pour un détournement de 70 millions de dollars de fonds étatiques, qui n'est quand même pas une mince affaire, mais qui a été abandonné par, cette accusation a été abandonnée par la cour administrative de Kiev, qui l'a réhabilité dans les services fiscaux.
Oui. Et alors,
voilà, on a ce trust, cette espèce de trust, cette espèce de capitalisation d'un certain nombre de structures étatiques que les Ukrainiens voient et qui les fatiguent, si vous voulez.
Oui, avec des critiques même internationales, du G7, de la Banque mondiale, concernant là cette fois une décision de la Cour constitutionnelle qui concerne l'enrichissement illicite et son lien...
L'enrichissement personnel.
Voilà, son lien avec la politique. On voit également Yulia Tymoshenko, qui revient, l'ancienne de Maïdan, dans cette élection et qui revient avec des accusations très fortes, le vendredi dernier, de fraude, cette fois-ci, de la part du camp Porochenko. Elle dit qu'elle a des preuves, je cite, d'un vaste système pyramidal destiné à distribuer de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une campagne à la fois vide et sale, dans ce sens, pleine d'accusations?
Bah, c'est très probable, pour des raisons suivantes. C'est que vous l'avez dit, tous se tiennent dans un mouchoir de poche, qu'on est sur des programmes qui sont relativement proches. C'est-à-dire que même si on va avoir quelque chose, si vous voulez, à l'heure actuelle, excepté quelques candidats bien spécifiques, il est très délicat d'afficher au niveau de la population ukrainienne une affection forte pour la Russie. Donc les attentes sont assez claires. On peut être peut-être éventuellement critique avec l'Union européenne ou avec le FMI, comme va l'être Yulia Tymoshenko, mais on ne peut pas être complètement opposé. Donc on va être beaucoup plus pro-UE avec des décalages sur la position intégration à l'OTAN ou pas, sur ce genre de choses. Après, on est sur que faire, sachant qu'on est sur un pays qui est à l'heure actuelle en guerre, qui est économiquement compliqué, et avec des programmes qui sont difficiles à structurer et à mettre en place. Quand on parle notamment de Yulia Tymoshenko, son programme principalement c'est la relance économique et industrielle et la diminution du prix du gaz, puisqu'il y avait une augmentation du prix du gaz qui avait impacté tous les foyers ukrainiens. Elle annonce ce genre de choses, néanmoins, elle ne décline pas comment le mettre en place.
Et c'est ça, de la même manière qu'elle voulait une adhésion urgente à l'OTAN, ce sera à voir de toute façon pendant la campagne, on aura l'occasion d'en reparler, mais merci pour ce début d'explication aujourd'hui. Merci beaucoup Christine Dugoin-Clément, je le rappelle, chercheur au think tank Cap Europe et IAE Business School. Et puis n'oubliez pas, retrouvez ce soir l'Ukraine, il en sera question dans le grand reportage de la rédaction présidentielle en Ukraine, la comédie du pouvoir, par le correspondant de Radio France Moscou, Claude Bruyot. Merci et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
France Culture présente « On ment toujours à ceux qu'on aime », un film de Sandrine Dumas. Après avoir sabordé sa carrière de chanteuse, Jewel Stone vit à Paris d'un boulot de serveuse. Marie, sa grand-mère et seule famille se décident enfin à quitter les États-Unis pour venir la voir. Surprise, elle n'arrive pas seule. Mais comment accueillir Marie quand elle lui raconte depuis si longtemps des bobards sur sa vie, son travail et ses amours?
Tu l'as appelée comment ta fille imaginaire?
Ruby. C'est Paul, l'ex de Jewel, qui va être content.
T'es dans ma voiture, là, on va chercher ta grand-mère. Et elle croit quoi, qu'on est ensemble tous les deux? Tu te fous de moi?
On ment toujours à ceux qu'on aime, actuellement au cinéma.
My little Jewel.
Un film France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, ce n'est pas l'heure des bobards, mais bien des matins avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous connaissez le début, rien ne sert de courir.
Oui, à l'origine c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point, mais c'est devenu rien ne sert de courir, il faut dessiner le point, parce que voilà, il y a mieux que le jogging, le running. Alors désolé hein, pour ce franglais, mieux que la course si vous détestez le franglais, il y a le GPS drawing. Eh oui, désolé, il va falloir que je traduise le GPS drawing. Une activité qui consiste à courir et à dessiner à l'aide de son trajet sportif une figure qui ne sera visible que sur un plan. Alors tout cela fait peut-être beaucoup d'informations, je vais reformuler. Il y a des gens qui courent, bon jusque là Xavier vous suivez, certaines de ces personnes utilisent une application qui suit leur trajet de course et mesure les caractéristiques de leur course et dessine aussi un trajet désormais qui peut être matérialisé sur une carte. D'où l'idée donc de dessiner des figures à pied, en courant, en vélo. Alors il faut dire qu'à l'origine, ce GPS drawing a été pratiqué à l'insu de leur plein gré par des troufions américains courant sur des bases secrètes en Irak et révélant ainsi le lieu de ces bases secrètes aux djihadistes. Mais aujourd'hui, il s'agit de tout autre chose. C'est ainsi qu'on a été gratifié récemment d'une cigogne à Strasbourg, une cigogne de 51 km, un requin, le contour d'une carte de France. J'ai même vu un GPS drawing en forme de graffiti obscène. Enfin bref, tout est permis, il faut croire que courir, c'était pas suffisant et surtout, courir n'était pas suffisant, il fallait le faire savoir. Car j'imagine que vous avez été vous aussi embarrassé par certains de vos amis qui ont cru bon de devoir partager avec vous leur dernier run, combien je fais aux 10 km. Et ben maintenant, il y a pire, qu'est-ce que je dessine en 10 km? Une manière de rajouter du jeu dans le jeu, et du jeu JE, et dans le jeu, de l'ego, quoi. Le signe également que le sport n'est plus seulement du sport, je ne parle pas du sport professionnel, mais aussi du sport amateur. Le sport est désormais devenu un vaste champ d'expression, la course étant désormais une activité à ce point englobante qu'elle donne lieu à une multitude d'autres activités, l'endurance, le trail, le 10 km, le 100 km. Je ne parle pas du hijab running parce que je m'étais promis de ne pas en parler. Et voici désormais le GPS drawing, dessiner ou courir. Maintenant, il n'y a plus à choisir.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner.
Allez, deux salles, deux ambiances. Une ministre du Travail pour évoquer la Journée internationale du droit des femmes. Muriel Pénicaud sera notre invitée vers 7h40. On évoquera avec elle donc l'égalité homme-femme dans l'entreprise, mais aussi les difficiles négociations autour de l'assurance chômage. Et puis aux environs de 8h20, Josiane Balasko, l'actrice devenue écrivaine, elle publie un recueil de nouvelles et l'une d'entre elles envisage un monde sans hommes. Bon réveil à tous, il est 7h sur France Culture.